affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons vous convier à un grand voyage. Nous allons en effet nous transporter dans l'île de Rhodes, entre la mer Égée et la Méditerranée. Toutefois, ce n'est pas un voyage d'agrément, un voyage touristique que nous vous convions, car l'objet de celui-ci sera plutôt l'histoire. Nous avons en effet la joie de recevoir dans nos studios Bernard Devèvre et Laurent Vissière, qui ensemble viennent de publier un ouvrage extrêmement fouillé sur le siège de Rhodes par les janissaires du sultan Mehmed II, dit le Conquérant, en 1480. Messieurs, bonjour.
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 Monsieur Devèvre, vous êtes diplomate de profession, vous êtes également passionné d'histoire médiévale, à laquelle vous avez consacré de nombreux travaux, et je précise que vous êtes également, depuis 1996, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Quant à vous, monsieur Vissière, vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne. Et donc vous avez réalisé ensemble un travail de recherche qu'on ne peut que qualifier de monumental sur la bataille qui, en 1480, opposa les troupes de Mehmed II aux chevaliers de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Si je ne me trompe pas, c'est donc l'ancêtre de l'actuel ordre de Malte, mais qui était à l'époque un ordre militaire dont le siège était donc dans l'île de Rhodes. Alors je m'empresse de présenter votre ouvrage en précisant qu'il s'agit bien d'une somme absolument monumentale, puisqu'il fait 900 pages, et qu'il a d'ailleurs été qualifié pour cette raison par Philippe Contamine d'ouvrage absolument remarquable. Ma première question, messieurs, portera sur le facteur déclenchant. Qu'est-ce qui vous a décidé soudain à publier une telle somme, à effectuer un travail aussi titanesque de recherche sur un sujet tel que celui-ci ?
Nous avions l'un et l'autre travaillé parallèlement sur Rhodes et notamment sur ce siège. En ce qui me concerne, j'avais commencé à m'intéresser à la présence en Méditerranée orientale des Francs dès les années 1964 environ. Mais depuis lors, j'avais effectué plusieurs séjours sur Rhodes et accumulé une documentation assez importante sur son histoire au XVe siècle, et notamment sur ce siège de Rhodes, qui est paradoxalement assez mal connu. On connaît son issue, assez mal ses diverses péripéties. Laurent Vissière, ayant travaillé sur un manuscrit très important qui concerne ce siège, moi de mon côté sur un autre, nous avons décidé, grâce à Philippe Contamine d'ailleurs, de réunir nos efforts pour mener durant plusieurs années cette quête qui nous a conduit d'ailleurs à travers toute l'Europe.
Alors, si je ne me trompe pas, l'un des facteurs déclenchants de votre initiative est aussi la découverte d'une source absolument inédite et qui n'était pas utilisée dans les précédents ouvrages consacrés à ce siège.
Oui, en effet, lorsqu'on a écrit sur le siège de Rhodes depuis le XVIIe siècle, on utilise toujours la même source, c'est-à-dire la relation de Guillaume Caoursin, vice-chancelier de l'ordre, qui est une source intéressante, officielle, mais relativement limitée. Et alors qu'il existe dans les collections royales depuis le XVIIe siècle, donc à la Bibliothèque nationale aujourd'hui, un journal manuscrit du siège tenu par un des assiégés, jour par jour, et je dirais même heure par heure, ce qui fait que nous connaissons tout ce qui se passe dans la cité durant 3 mois, le matin et toute la journée, et même pendant la nuit lorsqu'il y a des alertes nocturnes qui retentissent, ce qui fait qu'on a une sorte d'histoire globale de la cité qui nous donne un éclairage totalement inédit, et ce manuscrit n'avait jamais été vu par personne.
Vous avez dit, Philippe, Jean-Bernard Devèvre, que cette histoire était relativement peu connue. C'est un jugement qui concerne nos contemporains, mais à l'époque de ces événements, en revanche, j'ai découvert que le siège de Rhodes était considéré comme un événement, au contraire, extrêmement important et plus connu que bien d'autres qui accrochent aujourd'hui notre attention.
Absolument, puisque Caoursin, dont Laurent Vissière évoquait le nom, vice-chancelier de l'ordre et secrétaire du grand maître, qui a écrit une relation en latin, a très rapidement rédigé une version relativement brève qui est présentée comme une lettre du grand maître Pierre d'Aubusson au souverain européen, dont nous connaissons deux destinataires et les exemplaires, les textes qui leur ont été envoyés. L'un adressé au pape et l'autre adressé à l'empereur. Mais en dehors de cette version relativement brève, il y a eu également des textes de Caoursin qui ont été imprimés à travers toute l'Europe et diffusés par le réseau de commanderies hospitalières sur tout le continent européen. Je vais peut-être laisser Laurent en parler, puisqu'il a eu également la chance de regarder de près beaucoup de ces versions qui sont des incunables et que nous avons tous étudiées avec une grande minutie.
Oui, parce que si je comprends bien, donc, ces documents auxquels vous faites référence sont des documents imprimés qui ont une vocation à la fois d'information, de propagande, d'appel à l'aide ou à la levée de fonds en faveur, j'imagine, de l'ordre. Est-ce que vous pouvez, Laurent Vissière, nous replacer le contexte général dans lequel le siège va se produire? Que font les hospitaliers à Rhodes? Quelle est cette cité, sa position, son intérêt? Et pourquoi tous les yeux de l'Europe se tournent à ce moment-là vers ce siège et son issue?
Vous m'obligez à remonter presque deux siècles en arrière. C'est lorsque les Occidentaux sont chassés de Terre Sainte, en 1291. Les principaux ordres de chevalerie, les hospitaliers et templiers, sont obligés donc d'abandonner la Terre Sainte. Ils se replient d'abord sur Chypre, où ils vont rester un certain temps. Bon, les Templiers vont rapidement disparaître dans les circonstances que l'on sait. Mais les hospitaliers décident, eux, de garder leur indépendance et ils opèrent un coup de main sur l'île de Rhodes, qui est à cette époque-là encore byzantine. Ils arrivent à s'en emparer vers 1310 et à partir de là, autour de la capitale de l'île, ils refondent leur ordre qui va régner en quelque sorte sur le Dodécanèse jusqu'au début du XVIe siècle. Alors leur objectif à terme, c'est toujours de relancer la croisade et donc de délivrer Jérusalem. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les Turcs prennent de plus en plus de poids en Méditerranée orientale et ils sont donc réduits à une position défensive. Non plus, il ne s'agit plus de délivrer Jérusalem en réalité, mais de résister aux Turcs, à la poussée ottomane, qui est de plus en plus terrifiante pour les Occidentaux au XVe siècle, avec évidemment le siège de Constantinople, 1453, mais il y a une série d'autres sièges horrifiques, comme Nègrepont, dans l'actuel EB, où la cité vénitienne est absolument anéantie par les Turcs en 1470. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les hospitaliers sont véritablement en première ligne. Et ils ne sont plus le fer de lance de la chrétienté occidentale, mais une espèce de poste avancé. Et donc, c'est les seuls à mener le combat de manière quasi constante contre les Turcs. Donc, ils sont un modèle et ils vont profiter. Ils vont profiter. Le siège est l'occasion de montrer au reste du monde qu'ils sont fidèles à leur parole, à la foi chrétienne, et que, donc, si on veut se faire bien voir des puissances célestes, c'est à eux qu'il faut donner de l'argent. Donc, le siège de Rhodes va être l'occasion d'une campagne de propagande d'une ampleur totalement inédite à cette époque-là en Europe et qui bénéficie d'une nouvelle invention, c'est l'imprimerie. Donc, beaucoup de textes sont imprimés, de fait.
Lorsqu'on dit le siège de Rhodes, d'ailleurs, il faut toujours bien préciser lequel, parce que, si je ne me suis pas trompé, il y en a eu toute une série auparavant, il y en aura un autre ensuite, puisque Rhodes va finir par tomber, Et auparavant, ce sont des Mamelouks égyptiens qui
assiègent la ville. Absolument, notamment au début de la première partie du XVe siècle, notamment en 1440 ou 1444, il y a eu des sièges très importants, dont les hospitaliers ont tiré un enseignement s'agissant du caractère défensif de la ville. Pour reprendre ce que disait Laurent, pour préciser un point, durant le dernier tiers du XVe siècle, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, devenu de Rhodes, est un peu le gendarme de la chrétienté en Méditerranée orientale, d'autant que le cheminement des pèlerins qui partent tous les ans de Venise vers la Terre Sainte passe toujours par Rhodes. Rhodes est une ville-port, un port totalement cosmopolite, et leur présence sur l'île de Rhodes et la présence toujours de cet ordre dans les îles satellites qui sont Simi, Chalki, Alimnia, Tylos, Leros, Kalymnos, Nisiros, forment un ensemble où des postes avancés.
Une sorte de chapelet défensif.
Tout à fait, tout à fait. Plus, j'ai oublié une île importante qui est l'île de Kos, en face de laquelle, après la chute de Smyrne, va servir de point de départ à une conquête sur le territoire anatolien, les hospitaliers créant une tête de pont sur l'antique cité d'Halicarnasse, devenu aujourd'hui Bodrum, où ils construisent ce que l'on va appeler le château Saint-Pierre, ce qui leur permet de surveiller tous les détroits et donc la navigation dans ce secteur. Et également, c'est un centre qui va, à travers les foires qui continuent dans cette région d'Halicarnasse, où les Turcs leur vendent du fourrage ou du bois, d'alimenter en matériel des éléments qu'on ne trouvait pas facilement sur l'île de Kos ou sur l'île de Rhodes.
Pour revenir à cette île de Rhodes précisément, en 1480, on pourrait croire que c'est une forteresse, parce que voilà, on a compris que c'était le siège d'un ordre religieux militaire. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est une véritable cité. Pouvez-vous nous décrire la cité qui voit soudain débarquer un beau matin de 1480, en mai si je ne me trompe pas, des milliers d'hommes de troupes turcs.
Des dizaines de milliers. Alors, une ville qui se trouve sur la partie septentrionale de cette grande île. C'est un port en eau profonde, avec un port annexe qu'on appelle le Mandraki, qui abritait en principe les galères. Et la ville même est un peu en forme de croissant. Elle comporte trois parties. Ce qu'on appelle le bourg, c'est-à-dire la ville où vivent les Grecs, les Latins, les Francs, les Syriens, la communauté juive.
C'est une ville extrêmement cosmopolite, comme
tout à fait, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le château ou colachium, qui est en principe l'enceinte où vivent les chevaliers et où ils doivent en principe passer la nuit, vivant dans ce qu'on appelle des auberges où ils doivent prendre leur repas en commun. Et puis, le palais du grand maître lui-même, qui est un site extrêmement fortifié, qui se trouve au nord-ouest de cette cité, et où se trouvent d'ailleurs tous les services administratifs de l'ordre. Voilà un peu comment se présente cette ville à la veille du siège de 1480.
Donc combien d'habitants environ?
Environ 5 ou 6 000, je crois que Laurent Vissier, oui.
Oui, on avait estimé la population à 5 ou 6 000 habitants, mais c'est une population assez flottante en réalité, il n'y a pas de statistiques. Mais ce qui est certain, c'est qu'une des langues véhiculaires est le français. Et on parle français à Rhodes. Parce que le grand maître et la plupart des dignitaires, en fait, sont originaires de France. Et donc, la langue de la chancellerie, c'est le latin, mais également le français. Et de manière plus marginale, l'italien.
Oui, parce que le grand maître de l'époque s'appelle donc
Pierre d'Aubusson.
Pierre d'Aubusson. Et il est français.
Il est français, et son équipe aussi, en réalité.
Et au départ, si je ne me trompe pas, il était choisi justement parce qu'il est, il était choisi pour, parce qu'il était calé en fortification.
Tout à fait. On connaît paradoxalement très peu de choses sur sa jeunesse. Mais il semble avoir une expertise réelle en matière d'architecture et de fortification. C'est la raison pour laquelle le précédent grand maître, qui est un Italien, qui est un Battista Orsini, l'a choisi en 1475-76 pour fortifier un certain nombre de points ou veiller à la gestion des fortifications. Il est ensuite élu grand maître et il va jusqu'à la veille de ce siège prendre des dispositions nombreuses pour fortifier des points qui étaient considérés comme relativement faibles parce que à la fois des intempéries, le temps qui passe, peut-être l'absence de fonds n'avait pas permis de fortifier comme il le fallait tous les aspects défensifs possibles de cette ville, et il va faire des efforts considérables pour renforcer tout cela en faisant également venir des vivres et des munitions et de l'armement dans les années qui vont précéder le siège, puisque il est fort bien renseigné, il dispose dans toute cette région de Méditerranée orientale et probablement également en Turquie d'espions qui le renseignent régulièrement sur les plans et les progrès de la préparation d'une action contre l'île.
Lorsque donc ces 50 000 hommes débarquent sur l'île de Rhodes, ils ne sont pas pris au dépourvu. Comment se passe un siège ? Il faut essayer de se transporter sur place maintenant, peut-être avec Laurent Vissière, nous expliquer comment se déroule un siège en 1480 sur une île grecque lorsque les troupes ottomanes débarquent en masse.
Bien, un siège commence bien avant l'arrivée des troupes ennemies devant les murs de la cité. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Jean-Bernard de Vèvre, il y a tout un réseau d'espionnage qui fonctionne avant. Donc le siège commence presque 2 ans auparavant avec des préparatifs. Il faut rassembler une armada, il faut rassembler plus d'une centaine de navires pour passer les hommes, les chevaux, le matériel de siège lui-même. Et ensuite assurer la logistique sur place, les Turcs n'auront rien à manger. Donc, il faut qu'il y ait une noria de bateaux qui fasse la liaison entre Rhodes et l'Asie mineure. Ça demande beaucoup de temps. Alors, les Turcs essayent de cacher de tels préparatifs, mais évidemment, il y a des espions jusque dans la cour du sultan. Donc, Pierre d'Aubusson suit ça à peu près heure par heure, également, les préparatifs turcs. Donc, il est prêt, c'est-à-dire qu'avant même que les Turcs arrivent, en fait, les réserves ont été faites pour les vivres, les munitions. Ils disent qu'ils en ont pour 2 ans, ce qui est difficile à vérifier, puisque le siège, de toute façon, n'a duré que 3 mois. Mais à aucun moment, ils ont eu faim ou ils ont manqué de poudre, ça c'est certain. Et ensuite, il y a des signaux d'alerte, parce que c'est toute la population de l'île qui est menacée. À ce moment-là, dès que les voiles turques sont en vue, des signaux d'alerte retentissent et toute la population de l'île, essentiellement une population grecque, se réfugie derrière les murailles de Rhodes, qui est la ville capitale, mais également d'un certain nombre de forteresses qu'il y a tout autour de la ville. Ce qui fait que lorsque les Turcs arrivent, ils ne trouvent personne à emmener comme esclave, ils ne trouvent pas de troupeaux à manger, ils ne trouvent même pas de blé à moissonner, puisqu'on a moissonné les blés encore verts pour éviter que les Turcs puissent avoir des vivres sur place. Et on a même embarqué les poutres des maisons pour éviter qu'ils aient du matériel de siège. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il n'y a rien.
Il y a une sorte de politique de la terre brûlée avant l'heure.
Ce n'est pas vraiment la terre brûlée, mais on a tout emporté. Et du coup, ils sont obligés de... Pour 50 000 hommes, ça suppose aussi des dizaines de milliers d'hommes, de serviteurs.
Il faut une sacrée intendance, oui.
Il faut une énorme intendance. Et les Turcs vont être obligés de créer une véritable ville de sièges que les hospitaliers découvriront ensuite. Il y a même un bazar au milieu, il y a des bains, ils ont creusé des puits, ils ont été obligés de s'installer pendant 3 mois. Donc il y a cet aspect-là, et puis ensuite il faut amener surtout le matériel de siège. Et on est à une époque où un siège moderne, ça passe par de l'artillerie. C'est un siège avant tout d'artillerie.
Oui, parce qu'on est à une charnière de l'histoire militaire. Hein.
On est une charnière, c'est-à-dire que la catapulte ou le trébuchet, tout cela est désormais complètement dépassé. Personne n'en utilise. on utilise uniquement des bombardes et des mortiers qui ont un tir parabolique. Donc l'idée, c'est soit de faire brèche dans les murailles, c'est le tir des bombardes, soit de terroriser la population en lui envoyant des boulets par des tirs paraboliques, donc qui tombent n'importe où depuis le ciel, qui sont là pour les faire craquer. En réalité, c'est une guerre psychologique. Donc pendant 3 mois, ils vont être bombardés jour et nuit. Et évidemment, avec une riposte, c'est-à-dire qu'il y a des canons en face qui leur tirent dessus. Donc c'est un duel, avant tout un duel d'artillerie.
Oui, donc si je ne me trompe pas, on comptait parmi les armées turques au départ, en tout cas, 12 bombardes et 4 morts.
Alors ça, c'est 12 bombardes géantes. Il faut préciser, géantes. Ils ont des dizaines de tubes à feu, mais ils ont un nombre limité de bombardes géantes, c'est-à-dire des choses qui pèsent entre 15 et 20 tonnes et qui envoient des boulets de 100 à 200 kilos.
D'accord. Donc, et ces boulets, si j'ai bien lu, ce sont en fait des pierres.
Oui, mais ce sont
des marbres. Ah oui, de marbre, c'est bon.
Et ce sont des boulets qui, pour la plupart, ont été apportés sur leur propre bateau. Alors, je pense que par la suite, ils ont une logistique, si je puis dire, pour continuer à en fabriquer tout autour. Mais ce qui est intéressant, quand on parlera tout à l'heure des récits des pèlerins qui passent immédiatement après le siège, c'est de voir le constat du nombre des boulets qui sont tombés sur la ville ou qui sont encore autour des murailles et qui est absolument considérable, qui se compte apparemment par milliers. On dit environ 3500 boulets.
Si vous allez visiter Rhodes, ils y sont toujours. Hein. Personne n'a...
C'est un peu le blitz avant l'heure, cette affaire.
Voilà. Tout à fait.
Personne n'a pu enlever ces boulets qui sont trop lourds.
Ah oui, donc ils sont toujours en place.
Donc ils sont toujours là.
Il y a également ceux du siège de 1522 qui s'y sont ajoutés.
Oui.
Mais c'est très frappant dans les récits des pèlerins. Les pèlerins ont été effarés du nombre incroyable des boulets qu'ils trouvaient absolument partout où ils passaient. Certains d'ailleurs, l'un d'entre eux en a même remporté un en Occident, c'est parce qu'il est devenu boulet en question, mais c'était quelque chose qui les a énormément marqués.
Oui, dans certains documents que vous donnez, on explique que ces boulets peuvent traverser successivement plusieurs murs, traverser des maisons entières.
C'est pas tellement des murs qui traversent, c'est des planchers.
C'est-à-dire,
c'est en fait les boulets
des mortiers
qui tombent depuis le ciel et qui donc percent le toit et en général 3 niveaux avant de faire exploser des barriques de vin dans les caves. Ça les a beaucoup. Donc il y a des bâtiments qui sont percés de part en part parce qu'ils sont fortifiés contre du tir direct, mais pas du tout les toits, c'est rien du tout.
C'est une architecture en terrasse, comme dans ces pays, d'ailleurs un peu en pente pour pouvoir récupérer l'eau des pluies. Mais comme le disait Laurent très justement, on a plusieurs cas précis, notamment au palais magistral, où des boulets vont traverser 3 niveaux différents pour aboutir jusqu'à la cave. Et on a la description de la pièce de vin qui est percée. Aucun des frères qui était en train de prendre un repas n'est touché, mais les boulets partirent paraboliques, donc des mortiers, ont fait un tort considérable. Et ça contribue à terroriser la population, puisqu'on ne sait jamais où ces boulets vont tomber. Alors, les assiégés ont imaginé des procédures pour un peu y faire face. Ils ont, par exemple, mis dans les points hauts, sur les clochers ou dans les arbres, des hommes avec des clochettes qui signalent avant la mise à feu ou au départ, le tir de mortier pour essayer d'avertir au mieux ceux qui peuvent être la cible de ces tirs de boulets importants.
Ça signifie que durant ces 3 mois, la population vit plutôt terrée dans les caves, mais c'est bien elle qui est la cible de ces tirs. On est déjà dans une forme de guerre psychologique où on estime que le maillon faible, c'est le civil.
C'est tout à fait. Il s'agit de terroriser les populations par un certain nombre de gestes forts. Alors le bombardement en est un, mais le bombardement, il faut bien imaginer que ce n'est pas simplement le boulet qu'on a le temps de voir arriver depuis le ciel, qui grandit petit à petit et qu'on voit tomber. C'est également le bruit terrifiant des bombardes. Ça fait un vacarme tonitruant et qui fait trembler la terre. Et apparemment, la mise à feu d'une bombarde turque est ressentie jusqu'à l'intérieur de la ville. Puis évidemment, il y a le choc du boulet qu'on ressent d'encore plus près. Et il y a le fait qu'il tire jour et nuit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dormir. Pendant 3 mois, Rhodes est une ville où l'on ne dort pas. Alors c'est à double tranchant parce que les Turcs ne dorment pas non plus. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ils sont tous devenus plus ou moins insomniaques et ils commencent à perdre un peu les pédales.
En compatibilité, oui.
De manière générale, c'est-à-dire qu'ils commencent à voir des choses. Mais il y a un vrai problème de guerre psychologique. Et
Oui, parce que dans cette guerre psychologique, il y a les boulets, mais il y a d'autres moyens qui vont...
Et il y a la politique de la terreur. Les Turcs empalent quelques prisonniers pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, le grand maître empale quelques Turcs sur les murailles. Donc c'est un échange de bons procédés. Et en dernier lieu, on promet le pal à tous les adultes, hommes et femmes, et on entaille 8000 sous les murailles de Rhodes pour leur faire peur.
Alors, là, c'est dans un dernier stade. Parce
tout
que
à fait.
Auparavant,
alors, pour expliquer la terreur dont pourraient s'emparer les populations civiles, les Turcs envoient des messages qui sont enroulés sur des flèches qui sont envoyées dans la ville et justement qui menacent si les populations ne se rendent pas, si la ville ne rend pas les armes, d'emmener en esclavage femmes et enfants, de tuer les hommes et par là, dans certains messages, de diviser les communautés.
Elle promet également aux populations civiles d'être épargnées si elle se rebelle contre les hospitaliers. Donc j'imagine qu'on veut exploiter l'éventuel désamour entre les latins que sont les chevaliers et la population majoritairement grecque, en leur faisant miroiter un sort plus clément si elles se désolidarisent des hospitaliers. C'est ça.
Oui, c'est ça.
Assez habile, finalement. C'est pas seulement un combat frontal où on veut juste faire peur, montrer ses muscles.
C'est habile.
C'est une guerre psychologique
tout à fait.
Assez fine.
C'est habile, mais ils ne parviendront pas à leur fin.
Oui.
Puisque je pense que, d'abord, les populations de Rhodes étaient parfaitement au courant de ce qui était arrivé dans d'autres cas, notamment Laurent Vissière a fait allusion tout à l'heure à la prise de Négropont qui a eu lieu une dizaine d'années auparavant, mais où les populations ont été massacrées pour le plus grand nombre et emmenées en esclavage pour d'autres, et donc ces éléments sont bien présents.
Ils étaient précédés par une réputation qui nous dépasse ce genre de manipulation.
Tout à fait. Donc, ce coin que les Ottomans essayaient d'enfoncer entre les divers membres des communautés de ce qu'on appelle le bourg et d'autre part les chevaliers, ça n'a pas fonctionné et ils sont tous restés très unis jusqu'à la fin.
Dans cette guerre psychologique, il y a aussi des contre-mesures. C'est-à-dire qu'on peut être l'objet de manipulations, mais de l'autre côté, comme dans toute guerre, les hospitaliers, les autorités de la ville et de la forteresse organisent elles-mêmes des occasions de souder la population, de regonfler le moral des troupes et de dresser tout le monde contre l'envahisseur.
Oui.
Comment procède-t-il ?
Pierre d'Aubusson est assez fin de ce point de vue. Il fait régner l'ordre moral, c'est-à-dire qu'il met la cité, l'ensemble de la cité, c'est-à-dire aussi bien les populations latines et grecques, mais également juives, sous l'œil de Dieu, sous l'autorité suprême de Dieu. Et par exemple, un de ses premiers actes est d'interdire le blasphème. Il n'est plus question de jurer le nom de Dieu. Et on en a un exemple très peu de temps après, un jeune soldat qui perd au dé jure. Il est dénoncé par ses compagnons, il est traduit devant le grand maître, qui le fait pendre aussitôt. Et dit l'auteur du journal, après cela, on n'a plus jamais entendu un blasphème jusqu'à la fin du siège, parce qu'après, les mesures exceptionnelles disparaissent, et on est frappé, Rhodes est devenu le temps du siège une ville sainte. Et ça, c'est extrêmement important. Et lorsqu'il y a une exécution capitale, on la transforme en fête et en réjouissance populaire. On en a un exemple avec un traître, ou présumé tel, qui est pendu au son des trompettes et des tambours. Et on voit les petits-enfants qui dansent autour du pendu. Et il faut penser qu'à cette époque-là, en période de siège, évidemment, il n'y a pas de crèche, hein, donc il faut occuper les enfants. Et il y a donc toute une animation populaire et qui rend la défense possible. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus du bon droit, ils sont convaincus qu'ils sont dans la main de Dieu et donc qu'ils sont plus forts que les Turcs, alors qu'ils sont à 1 contre 20, en quelque sorte.
Oui, parce qu'ils sont en nombre très inférieur, mais à l'abri de leurs murailles. L'autre point qui est assez frappant, ce sont ces duels musicaux. Je savais que les armées marchaient au son du tambour, mais là, ça va bien au-delà. Ce sont des véritables duels musicaux. On se répond.
Ça fait partie de l'art de la guerre au XVe siècle. Il faut occuper l'espace sonore. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est le maître du pays en occupant l'espace sonore, en faisant le plus de bruit possible. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans une cour de récréation. Du coup, les Turcs, chaque matin, pour terroriser les Rhodiens, font jouer tous leurs tambours, gros comme des futailles de vin, paraît-il, sonner les trompettes, et lorsqu'ils ont fini ces roulements de tambour, ils poussent tous un cri formidable, donc 50 000 Turcs qui crient en même temps. D'où le titre de notre livre, « Tous les diables d'enfer », c'est le bruit que font les Turcs. Et l'auteur du journal explique que les Turcs leur donnent la matinade. Il y a la matinade, et ils font pareil le soir, donc il y a une matinade et une sérénade chaque matin, chaque soir. Et le grand maître, qui est conscient de cet aspect sonore de la guerre, répond aux Turcs en faisant décharger toute l'artillerie de la ville au même moment. C'est-à-dire qu'une fois que les Turcs ont bien crié, on leur tire dessus en faisant le plus de vacarme possible et en sonnant les cloches. C'est-à-dire qu'il y a un duel et ça leur plaît bien puisqu'ils font ça pendant 3 mois.
Et quel est le vainqueur de ce duel sonore ? Il n'en est point.
Ben, en quelque sorte, c'est ceux qui y restent. C'est-à-dire que les Turcs ne leur ont pas fait peur en criant.
Et dans ce duel sonore, on fait sonner les cloches, il y a aussi un aspect visiblement assez religieux, on a l'impression que du côté turc, c'est plutôt un vacarme de type militaire fait pour terroriser, et que, je me trompe peut-être, et que du côté de la défense de Rhodes, on joue aussi beaucoup sur la volonté d'en appeler à Dieu, d'être en dialogue avec lui, ou complètement.
Pas exactement. Dans les deux cas, c'est à la fois militaire et religieux. C'est-à-dire que lorsqu'on décharge toutes les bombardes ou lorsqu'on pousse un cri ou les tambours, c'est plutôt militaire. Mais chaque nuit, il y a des muezzines qui invitent les soldats musulmans à la guerre sainte et à tuer le plus de chrétiens possible. Et on leur répond avec les cloches, qui est l'exemple même de la religion chrétienne, puisque chaque fois que les musulmans s'emparent d'une ville chrétienne, on enlève les cloches. Il y a un véritable sens. Donc, il y a un duel de muezzin et de cloches, qui est bien attesté, là encore, par l'auteur du journal.
Pour vous voulez intervenir sur ce point, Jean-Bernard Deveyre ?
Non, je crois que Laurent est un spécialiste des questions de bruit d'une manière générale et de cris dans ces derniers siècles du Moyen-Âge. Hein, je voulais simplement rebondir sur un autre point, puisqu'on parlait de la ville, sur quand même ce manuscrit de Caoursin qui est un manuscrit tout à fait exceptionnel et qui est un manuscrit de dédicace donné par Caoursin au grand maître. Alors, on dira, mais ce manuscrit est connu, il est très beau. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que sur les 51 figures qui illustrent ce manuscrit exceptionnel, qui est le manuscrit latin 60-67 de la Bibliothèque nationale, il y a une trentaine de vignettes à pleine page qui concernent le siège, et 4 qui représentent la ville de Rhodes. Ces représentations sont d'une fidélité absolument étonnante et sans aucune comparaison avec d'autres représentations de villes à cette époque. Puisque tous les archéologues qui se sont penchés sur la question ont été admiratifs de la précision de ce document lorsqu'on compare les éléments qui y sont figurés avec ce qui reste aujourd'hui sur place. Il reste quand même beaucoup de choses dans les détails, non seulement seulement des fortifications, mais des maisons, de la disposition des rues et des divers sites. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avons eu la chance, et ça c'est un des éléments qui était bien sûr exploité dans notre livre, nous avons eu la chance de trouver à la bibliothèque du Vatican un texte absolument exceptionnel qui est le brouillon du manuscrit de Caoursin, manuscrit conservé donc à la BN aujourd'hui. Mais en dehors de ce brouillon qui est annoté par l'auteur, il y a un petit cahier qui constitue le texte des illustrations, des instructions données au futur illustrateur pour représenter certains éléments de l'histoire du siège. Or, j'insiste sur ce caractère exceptionnel, pour les 14e et 15e siècles, nous avons en Europe quelques cas d'instructions données à des peintres. Ce sont en général des précisions qui sont fournies pour la manière dont il faut disposer des personnages sur des manuscrits soit concernant l'Antiquité, soit des manuscrits religieux, mais selon des thèmes assez classiques. Là, nous avons découvert, et c'est absolument sans équivalent dans toute l'histoire médiévale européenne, le texte d'un cahier d'instruction de l'auteur d'un texte qui est connu, d'un manuscrit qui est conservé, et pour lequel nous avons les précisions qu'il donne pour la manière dont on doit exécuter telle ou telle figure avec des notations qui sont donc absolument sans équivalent. Et ça nous permet d'avoir de disposer de données sur la manière dont cet illustrateur qui passe pour être un des meilleurs peintres de manuscrits de la fin du XVe siècle, a pu travailler dans ce cas précis et les raisons pour lesquelles il a exécuté un travail avec cette précision qui était admirée sans explication par tous ceux qui l'avaient connu. Je pense que là-dessus, Laurent peut peut-être reprendre le fil sur ce lien entre le texte et l'image.
Oui, en fait, on a un cahier. Donc, pour chacune des premières miniatures, le cahier est incomplet, on a la description exacte de ce que voulait l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur dit, voilà, tel personnage habillé de telle manière, en train de faire telle chose. Et il a envoyé, en plus à Paris, pour être enluminé, une vision, une vue cavalière de la cité de Rhodes, qui est ensuite reproduite. Donc il y a un témoignage archéologique, je dirais, de la cité dans le manuscrit. Quelque chose qui est unique en son genre.
Oui, donc ça donne des indications d'ordre également topographique.
Tout à fait,
bien sûr. La disposition des lieux. Et donc lorsque l'on remet l'ensemble des sources en regard de ces indications-là, miracle, même s'il y a une part de propagande dans ses écrits, cela correspond.
Tout à fait. Il n'y a pas de mensonge, il y a juste une adaptation de la réalité. Hein.
Parfois un peu emphatique.
Oui. Et dans cette réinterprétation, il y a un autre aspect intéressant, c'est le caractère religieux. On considère à cette époque, et l'accent est mis sur cet aspect, que c'est une victoire providentielle. On peut d'ailleurs assez facilement, parce que 5000 hommes qui viennent à bout de 50 000, ou même davantage, on peut aisément comprendre que les contemporains des faits y voient un signe divin. Mais c'est un des sillons qui est creusé, n'est-ce pas, par la diffusion de l'événement.
C'est une guerre religieuse, de toute façon. Et comme dans toute guerre, la bataille ou le siège est marqué par la présence du divin. C'est-à-dire que le vainqueur est toujours convaincu que Dieu a été à ses côtés. Ce qui est relativement modeste, hein, si on y songe. Et il y a bien une dimension religieuse qui est immédiate, puisqu'il s'agit de la croix contre le croissant. Et il y a donc un certain nombre de phénomènes religieux qui sont mis en avant. D'abord des célébrations particulières, le temps religieux devient très étrange, puisqu'il y a des messes en permanence, des actions de grâce, des processions dans les rues, des louanges, des cantiques pratiquement en permanence. Hein. Tout le monde prie à ce moment-là. Mais très vite, il y a aussi des miracles. Et ça, c'est assez intéressant. C'est ce que l'on voit avec le journal. Très tôt, les défenseurs perçoivent à leur côté des présences invisibles qui les soutiennent. Par exemple, il y en a un qui reçoit...
Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien dans le journal chronologique et pas dans les relations...
Non, c'est pas dans les relations postérieures. C'est comme si ces miracles étaient douteux. Par exemple, il y en a un qui reçoit un boulet de canon contre la cuisse, qui tombe et qui se relève. Et il explique aussitôt que c'est Saint-Georges qui l'a relevé. Alors, l'explication est assez simple. Bon, bien sûr, on peut penser que c'est Saint-Georges, mais c'est souvent que la pierre tirée de très loin a perdu de... C'est pas des gros boulets, c'est des petits boulets, en l'occurrence, a perdu de sa force. Donc, ça suffit à le faire tomber sans le tuer. Mais toujours est-il que l'on va porter ensuite des armes ou des boulets en ex-voto dans les églises, que l'on remercie Dieu et ses saints. Et ces miracles qui se multiplient au fur et à mesure que le temps passe vont culminer avec l'assaut général du 27 juillet lorsque les Turcs s'emparent par surprise du sommet des murailles.
Mais cette fois, ils n'ont pas fait sonner leur trompette, ils n'ont pas battu tambour, ils se sont approchés à pas de loup.
En catimini, et tout à coup, ils s'élancent. La muraille est entièrement effondrée, elle s'est effondrée dans les fossés, donc ils peuvent monter sans même d'échelle jusqu'au sommet de ce qui reste de la muraille. Et ils plantent leurs étendards sur les sommets de la muraille qu'ils viennent de conquérir en criant « ville gagnée », ce qui, dans tous les cas connus, est le début de la fin pour une cité. Une fois que les assaillants ont pris pied sur le rempart, qu'ils crient « ville gagnée », la panique s'empare...
Qui sont 50 000 contre 5 000, effectivement, on peut comprendre que ce soit mal parti.
La panique s'empare de la population civile et la ville est perdue. C'est toujours ainsi que ça se passe, mais pas à Rhodes. À Rhodes, le grand maître, entendant ses cris, voyant ce qui se passe, s'arme en vitesse, brandit la bannière de l'ordre et repart à la conquête de ses propres murailles avec ses compagnons. Donc c'est un cas inédit, c'est-à-dire ceux des défenseurs qui partent à l'assaut de leurs propres murailles.
C'est comme ça qu'un des témoins le décrit, dit les défenseurs deviennent des assoyants.
Oui, c'est ça, deviennent des assaillants. Alors, c'est possible parce qu'en fait, les murailles sont étroites et si elles sont éboulées du côté campagne, en fait, elles sont encore très hautes du côté de la ville. Donc, ils sont peut-être des milliers à prendre pied sur les murailles, mais ils n'arrivent pas à descendre. Parce qu'il n'y a pas d'échelle pour descendre. Ils n'avaient pas besoin d'échelle pour monter, mais ils auraient eu besoin d'échelle pour descendre. Donc là encore un paradoxe, et c'est les hospitaliers qui repartent à l'assaut sur des échelles pour reprendre leur muraille. Et c'est à ce moment-là que se produit un miracle dans le ciel, qui est décrit absolument par tout le monde, parce qu'ils n'ont rien vu, mais qu'on leur a raconté. C'est-à-dire que la Vierge et Saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre, apparaissent... soit dans le ciel, soit carrément sur les murailles, et repousse les assaillants. Alors, les défenseurs n'ont rien vu, mais les Turcs, et notamment les prisonniers, ou ceux qui se sont rendus, ou ceux qui sont transfuges, affirment tous avoir vu ces personnages merveilleux les repousser. Ce qui est certain, c'est que le grand maître a repris pied sur la muraille, et qu'un mouvement de panique s'empare des Turcs, qui refluent en désordre et qui abandonnent à ce moment le siège. Le moral est défait. Et donc c'est ce grand miracle qui va être ensuite célébré par notamment un ex-voto, un immense tableau toujours conservé, où on voit en effet la Vierge dans le ciel et Saint Jean-Baptiste sur la muraille, dans une iconographie d'ailleurs très étrange, puisque Saint Jean-Baptiste tient son petit agneau dans une main et une épée de feu dans l'autre, ce qui n'est pas l'iconographie normale du saint.
Une tenue adaptée aux circonstances.
Oui, l'épée de feu faisant plus peur que l'agneau, c'est clair.
En revanche, à propos d'agneau, d'ailleurs, je reviens en arrière sur cette guerre psychologique. Lorsque il y avait un autre moyen de résister aux tentatives d'intimidation par le bruit, notamment l'appel du muezzin ou aux cris lancés par les Turcs, c'est qu'ils, petit à petit, ils les font passer, je crois. Ils montrent que les sonorités utilisées sont proches de celles justement des agneaux, je ne me trompe pas.
Des moutons.
Des moutons.
Des moutons, oui. On dit qu'en fait, ils bêlent comme des moutons et que donc on va les tuer comme des moutons. On file la métaphore, mais il s'agit évidemment de ridiculiser l'adversaire pour ne plus en avoir peur.
Oui, le bruit qu'on rit, on a moins peur.
On n'a pas peur des bêlements d'un troupeau de moutons.
dans cet affrontement et la sollicitation des puissances célestes, on est toujours un petit peu tenté de penser qu'il s'agit de réécriture pour œuvre de propagande, qu'il s'agit de quelque chose d'utiliser à dessein de façon rationnelle, voire cynique. Est-ce bien le cas ou est-on dans une époque, une ambiance, une psychologie, que sais-je, où réellement tout cela fait partie du quotidien ?
Vous avez répondu. En fait, au XIXe siècle, on aurait dit, avec le positivisme, que tout cela était de la propagande et fabriquée par les hospitaliers. Et au XXe, avec la psychiatrie, on aurait dit qu'ils étaient tous fous.
Et au XXIe,
je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus nuancé. Non, je crois qu'ils y croyaient vraiment. Ils baignaient dans une ambiance merveilleuse. Et ils étaient certains qu'ils étaient regardés d'en haut. Et donc, à ce moment-là, il est tentant de voir des gestes, des signes. Évidemment, on va les mettre ensuite en exergue pour à des fins de propagande. Il est tout à fait symptomatique qu'un des plus petits textes qu'on ait édité soit une feuille destinée à des vendeurs d'indulgences sur les places européennes, où on raconte toutes sortes de miracles absolument extravagants qui ne sont attestés par aucune autre source, qui ont donc été inventés pour la circonstance, et il est clair que c'est juste pour vendre des indulgences, c'est-à-dire avoir de l'argent frais qui rentre à Rhodes. À ce moment-là, oui, là on a des miracles de circonstance, de fabrication, et auxquels les hospitaliers ne croient certainement pas, ou les gens de Rhodes ne croient pas. On est dans un autre cas de figure. Mais il est clair que d'un beau miracle, on y croit, et ensuite on va l'exploiter si l'on peut. Mais c'est une juste conséquence. C'est-à-dire, un beau miracle, pourquoi ne pas...
Si c'est mobilisateur, pourquoi s'en priver ?
Pourquoi s'en priver ?
L'autre aspect dans le déroulé, c'est ça qui est formidable avec votre source, qui est donc ce déroulé chronologique, c'est qu'on sent au fil du temps une montée de la tension, avec justement tous les éléments dont on a parlé, le pâle pour certains, la crainte des traîtres, qui est peut-être importante. Tiens, restons peut-être un petit peu là-dessus, sur la crainte des trahisons, parce qu'on pourrait croire qu'un siège, c'est quelque chose de totalement hermétique, on n'entre plus, on ne sort plus, après tout, c'est ça la visée d'un siège, on attend que l'assiégé s'épuise. On découvre que pas du tout, il y a un certain nombre de gens qui passent d'un camp à l'autre au fil des jours.
Plutôt dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, mais il y a du côté des assiégés, vous avez raison, des sorties, alors offensives, pour essayer de reprendre telle ou telle portion du glacis des environs, pour empêcher que les assaillants turcs ne mettent en place des mines, par exemple, qu'ils ont commencé à creuser, pour reprendre possession des fossés qu'ils ont essayé de remplir avec des pierres que l'on vide subrepticement. Et donc, il y a des mouvements en ce sens. Il y a également des gens qui vont venir du camp des assiégeants à l'intérieur de la ville. Alors, certains...
C'est quand même plus confondant.
Oui, mais alors, on a le cas de Maître Georges, dont on évoquait le nom tout à l'heure, qui est un artilleur, plus qu'un artilleur turc, qui est un fabricant, un fondeur de canons qui a travaillé pour les Turcs pour d'autres sièges, qui semble avoir fondé une famille dans Constantinople reprise par les Ottomans et qui va se présenter sous les murailles en demandant à être reçu. On le fait donc monter, il est présenté devant le grand maître et il se présente comme quelqu'un qui a reçu la lumière d'un seul coup et qui vient se mettre au service de l'ordre après avoir été à celui de Mehmed II. Et alors, on va, le grand maître le reçoit, l'écoute, va lui donner une garde jour et nuit pour s'assurer de ses mouvements et de ce qu'il fait. Il va même pendant un temps solliciter ses conseils, puis devant des proposition de cet Allemand maître Georges qui semble particulièrement malvenu, voire même constituer des signaux pour des gens d'en face, il va être mis à la question, torturé, avoué qu'il était un traître et il sera finalement exécuté. Mais il y en a d'autres qui peuvent venir de temps en temps. Les uns sont des adultes, certains sont des janissaires, donc des chrétiens convertis depuis leur jeunesse et enrôlés de force dans les troupes ottomanes. Il y a des enfants qui viennent. Il y a de véritables traîtres là qui sont assez. Deux sont assez vite confondus puisqu'ils venaient pour essayer d'empoisonner le grand maître ou son entourage. L'un est pris, l'autre arrive à se sauver. Mais donc, là encore, nous avons des textes précis qui racontent au jour le jour, dans ce magnifique texte de l'histoire journalière, les péripéties de ces mouvements venant du camp des assiégeants à l'intérieur de la ville.
Dans ce déroulé, d'ailleurs, avec ces rebondissements, la crainte des traîtres, l'intervention... divine au final qui permet de repousser l'assaillant au dernier moment, on est dans une narration qui est presque celle d'une tragédie ou d'une pièce de théâtre et le tout sublimé par une ambiance de huis clos. Vous partagez ce jugement, est-ce qu'il y a de ça finalement dans un siège, la possibilité d'observer de façon comme entomologique la façon dont évolue une société sous tension?
C'est évidemment l'intérêt majeur des sièges, c'est qu'on a une société qui se retrouve coincée, qui ne vit plus du tout de manière normale, puisque la ville médiévale suppose que les portes se ferment le soir, s'ouvrent le matin et des contacts constants avec l'arrière-pays. Là, tout à coup, les portes restent fermées, on ne sonne plus... Les heures avec les cloches, le temps est rythmé par les cloches. Les cloches désormais rythment les alertes. Le bruit que l'on entend, le bruit de bronze, c'est plutôt celui des trompettes et celui des canons, c'est-à-dire que le temps est déréglé. Et nous avons donc une société qui vit en ébullition et qui se met de plus en plus en scène. En effet, il y a un aspect extrêmement théâtral, comme vous le disiez. Il y a un décor qui est posé avec les murailles, à l'intérieur les églises, et c'est des mouvements théâtraux constants. Et chaque geste du grand maître est théâtralisé, chaque cérémonie est particulière. On a parlé des exécutions capitales, c'est des moments clés de renforcement du moral de la population, de l'unité. Et on a des attaques constantes où la crainte... d'une attaque jour et nuit. Oui, donc ça permet d'étudier cette société en crise, quoi. Il y a plusieurs éléments. Pour les amateurs d'histoire militaire, le siège de Rhodes est un laboratoire, c'est-à-dire qu'on a une avance de plusieurs dizaines d'années sur tout ce qui est du matériel de guerre et la fortification. On utilise des choses qu'on n'a jamais vues jusque-là, notamment des sortes de gaz de combat qui sont envoyés sur la ville, des machines amphibies destinées à mettre le feu à la flotte dans le port. Il y a vraiment une imagination débridée pour la guerre. Et puis il y a cette question d'une guerre psychologique, puisqu'on est très sensible au moral des uns et des autres. Et je dirais que plus des deux tiers des actions, en fait, sont des actions psychologiques. Il s'agit de briser le moral de la défense ou de le renforcer. Et que l'essentiel du siège, à mes yeux, se passe quand même là-dedans. Les canons sont là en plus, mais il s'agit de briser le moral d'une population. Et ça quand même, ça reste d'actualité.
Messieurs, merci beaucoup pour cet exposé. Pour ma part, je voudrais conclure en précisant à nos éditeurs qu'il ne faut absolument pas se laisser intimider ni par la taille de cet ouvrage, ni par son érudition, car en effet, non seulement il peut se lire comme un roman, et le langage de l'époque des documents que vous livrez est souvent écrit dans une langue très imagée et accessible. C'est donc un ouvrage réjouissant à lire. Mieux, même s'il fait 900 pages, on peut parfaitement passer d'un document à l'autre ou choisir tel ou tel et le lire de façon non cursive. Et enfin, pour terminer, le lecteur aura aussi l'agrément de découvrir de nombreuses illustrations en couleur, dont celles que nous évoquions et qui sont absolument splendides. Pour terminer par des éléments plus factuels, ce livre peut donc être commandé auprès des éditions Droz, D-R-O-Z. Messieurs, merci encore à la fois pour votre travail et votre venue dans nos studios.
Merci, au revoir. Thank you.